Cette semaine était une semaine assez particulière, n'est-ce pas? Bon, je pense que je ne suis pas le seul à ressentir pratiquement toutes les émotions possibles dans une semaine. On avait les enfants à la maison, donc on a eu de la joie d'être avec eux. On a joué au basket, donc j'ai un peu mal aujourd'hui à cause de ça. si je vous semble un peu lent aujourd'hui, ce n'est pas une illusion, c'est bien vrai. Alors... Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a vu aussi l'inquiétude de voir BFM TV et tout ce qu'il y a dedans, ces histoires. On a aussi, comme pas mal aussi entre vous, des gens qui sont impliqués dans cela. Et ça fait vraiment vivre une semaine. On dort bien la nuit parce qu'on a tellement vécu dans la journée. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec les hauts et les bas, dans une intensité un peu hors norme, j'avais vraiment, le matin, en levant, à revenir à Dieu. Tellement la tête était prise dans toutes les différentes directions, j'avais vraiment presque, je dirais, urgence de revenir à lui le matin. Et c'est intéressant parce que ce terme, donc de revenir, se trouve dans notre texte, mais... C'est aussi, ce n'est pas juste ce texte, mais c'est un concept, une pensée dans le judaïsme actuel. Alors attention, parce que c'est un concept qui ne parle pas du Christ, même si ce même mot en hébreu, pour revenir, est le même mot que nous avons, que nous traduisons plutôt la repentance. C'est juste la différence entre les deux concepts. En fait, lorsqu'on parle du retour au Seigneur, là, on évoque peut-être la plus grande et la plus solennelle des fêtes juives, le Yom Kippour, le jour du pardon. Donc l'idée, c'est que, puisqu'ils sont le peuple d'Israël, donc le peuple de l'Alliance, je parle de l'Alliance avec Moïse, il y a cette idée que, on peut toujours revenir à lui parce qu'on lui appartient. Et donc, en revenant à lui, on demande pardon et il nous accueille. En fait, ce concept est très important pour nous en tant que chrétiens parce que c'est là où nous retrouvons toute la plénitude de ce qu'elle pourrait dire. Parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et en réalité, ce n'est pas comme nous venons à Dieu grâce à un sacrifice d'animal ou quelque chose comme ça. Nous venons parce que tout était déjà préparé. Et donc, la porte est ouverte. C'est vraiment comme, c'est mieux qu'une meilleure amie, mais c'est mieux même comme un grand-parent où nous savons que la porte est toujours ouverte, il suffit juste de la pousser. Oui, l'accueil est là. Et c'est là où, dans ce passage, nous verrons que d'abord, le Seigneur se présente comme le seul Dieu vivant. Et ensuite, il va avoir un passage qu'on va voir qui est un peu dur. C'est un passage où Dieu se moque carrément des autres idoles. Mais le prophète utilise cela pour montrer en réalité, ce n'est pas méchant, la réalité c'est que c'est une porte ouverte envers lui, de revenir à lui. Donc voilà ce qu'on va voir. Donc de revenir à Dieu et nous commençons avec la première partie. Le Seigneur est le seul Dieu vivant. Verset 6, Ésaïe 44, verset 6, nous lisons. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, c'est lui qui le rachète. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui peut se prononcer comme moi, qui l'annonce et me l'expose? Depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité, qu'il annonce donc les événements, et aussi ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas depuis toujours fait entendre et annoncer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y en a point d'autre rocher. Je n'en connais pas. Il est le Dieu d'éternité. L'Éternel Dieu parle avec l'autorité qui lui appartient. Et les mots qu'il utilise pour se décrire, il est le roi d'Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas les Assyriens qui les ont menacés juste avant que Ésaïe a crié ses paroles. Ce n'est pas non plus les Babyloniennes qui seront ceux qui vont finalement faire capituler leur royaume. Ce n'est pas eux l'autorité finale. Ce n'est même pas leur meilleur roi parmi leur peuple, Ézéchias ou Josias ou tous ces grands hommes de Dieu. Non, lui et lui-même est le seul. Il est le roi d'Israël. Et en tant que leur véritable roi, c'est lui qui les achète. Et comment est-ce qu'il les a achetés? On se rappelle de Moïse. On se rappelle justement de comment il les a délivrés d'Égypte. Il leur rappelle de cela parce que Israël appartient à son Dieu. C'est normal. Il est le Dieu des armées, c'est-à-dire il a toute puissance. Et en plus, il se décrit comme le commencement et la fin. C'est donc lui qui parle et les choses entrent en existence. Il parle d'eux comme le peuple d'éternité, c'est-à-dire avant même Abraham. C'est Dieu qui a appelé Abraham et c'est Dieu donc qui a créé tout ce peuple d'Israël. Donc depuis l'éternité, il avait l'œil sur eux. C'est lui qui a fondé leur nation et c'est lui qui a conclu l'alliance avec eux pour qu'ils appartiennent à lui pour toujours. Et justement, est-ce qu'on parle seulement d'Israël? Non. Parce que peut-être vous avez entendu et vous avez remarqué les ressemblances de ce que nous avons en Christ. Évidemment, et c'est absolument voulu. Jésus, qui aussi se présente comme le roi des rois. C'est lui qui a dit, ayant toute autorité, allez dans toutes les nations. Ou bien, dans Apocalypse, il ne dit pas, je suis le dernier, le commencement et le dernier. Non, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est la même chose. Il est aussi le vainqueur parce que c'est lui qui a vaincu la mort avec sa vie crucifiée pour nous. Donc, ça fait de lui notre rédempteur parce qu'il nous a rachetés par son propre sang. C'est lui qui a fait l'alliance que nous venons de célébrer là tout à l'heure dans la Sainte Cène. Il est le Dieu de l'alliance. Et donc, c'est lui qui nous parle à nous aussi puisque nous sommes en Christ. Et donc, c'est important pour nous aussi de prêter l'oreille. Pour Israël, à l'époque, il n'a pas d'autre espoir en dehors de lui. D'ailleurs, Christ, lorsqu'il a marché, il se présente comme le Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Comme dit N.T. Wright, si Jésus-Christ n'est pas le Dieu d'éternité, les évangiles sont des blasphèmes. Parce qu'il est le Dieu d'éternité, parce qu'il a donné sa vie, nous voyons que sa parole est vraie, tout ce qu'il a dit a été accompli. La tentation de l'époque, par contre, c'était de voir toute la force de toutes ces autres nations, des nations beaucoup plus puissantes. Il suffit de regarder la carte et nous voyons vraiment le problème. Même aujourd'hui, hein, on peut voir que Israël, ça fait vraiment un tout petit pays, alors que donc Babylone était là, et puis les Assyriens, et puis même Égypte, ils étaient vraiment au carrefour de toute leur époque. C'était trop facile pour eux de penser aux autres qui sont plus grands, plus puissants. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'époque? La même chose qu'on fait à notre époque. On fait des alliances. On fait des contrats. Donc, toi qui es plus fort que moi, donc je t'engage à me protéger. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Il devient un vassal. Il devient les serviteurs de cet autre roi, mais les deux ensemble qui peuvent se battre contre celui qui est plus fort et peut-être gagner. Peut-être. Mais entre-temps, il faut payer des impôts. Il faut adopter ses dieux. Dieu donc défie ces autres autorités en disant toutes ces divinités des peuples, il leur incite donc à faire demi-tour, à réfléchir sur leur histoire. Qui les a délivrés? Qui les a sauvés? Qui les a créés? Et est-ce qu'il ne peut pas agir même maintenant face à tout ce qu'il voit? Si l'Éternel abandonne leur Dieu à ce moment-là, ça ne peut pas finir bien pour eux, parce qu'il est leur espoir, finalement. Il est tout pour eux tous, tout comme pour nous. Qu'est-ce qui reste si on met à côté notre Sauveur, celui qui a donné sa vie pour nous-mêmes? Ce n'est jamais le moment. Alors, donc, il est nécessaire que Dieu s'adresse vraiment au grand problème de leur époque, qui est leur idolâtrie. Alors, il faut qu'ils comprennent que toutes ces idoles sont futiles, qui ne sont qu'une perte de temps. Alors le prophète dit, ceux qui façonnent les statues ne sont tous que néant, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Ils sont leurs témoins, ils n'ont ni vu, ni la connaissance. Aussi seront-ils honteux. Qui est-ce qui leur façonne un dieu ou fonde une statue pour entrer et pour n'en retirer aucune utilité? Et voici que tous ses compagnons seront honteux, les ciseleurs eux-mêmes ne sont que des humains, et qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils auront peur et seront honteux. Le forgeron, comme pour une hache, travaille avec le charbon, il façonne l'idole à coups de marteau. Il travaille d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà, sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà, fatigué. Le charpentier entend le cordeau. Il a dessiné à la craie. Il la fabrique au ciseau, il la dessine au compas et lui donne la forme d'un homme, l'apparence d'un être humain, pour qu'elles habitent dans une maison. Il coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et il fait un choix. Parmi les arbres de la forêt, il plante des pins et la pluie les fait croître. Les arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fabrique également un dieu. Il se prosterne et en fait une statue, devant laquelle il fait des révérences, il brûle au feu la moitié de son bois, et avec l'autre moitié, il va pouvoir manger de la viande. Il cuit un rôti et se rassasie. Il se chauffe et dit, ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, sa statue, sa révérence devant elle. Il se prosterne, il invoque, il crie, délivre-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni connaissance, ni intelligence, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas, et le cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Ils ne prennent pas la chose à cœur et il n'a ni assez de connaissances ni d'intelligence pour dire, j'en ai brûlé à moitié au feu, j'ai cuit du pain sur des braises, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une horreur. Je ferai des révérences devant un morceau de bois. Il se répète des cendres. Son cœur abusé l'égare. Il ne délivrera pas sa vie. Il ne dira pas. N'est-ce pas de la fausseté que j'ai en main? Le prophète, dans ce passage si dur et si descriptif, moque et se moque de ses idoles et tous ceux qui croient en elle. En fait, pour vraiment entendre ce passage comme il faut, je ne suis pas la meilleure personne pour le lire. Il faut vraiment un humoriste. Parce que la façon dont c'est écrit, c'est vraiment avec beaucoup d'humour. Il faut plutôt Norman ou Gad pour le lire. Et là, on aura le ton exactement comme il fallait, comme ça a été écrit. Si cette interprétation vous semble dure, n'oubliez pas ce qui s'est passé en Romains 1 Roi 18, verset 27, lorsque le prophète Élie se moquait aussi à des prophètes de Baal. Et ce qu'il a dit était assez fort aussi. En Rois 18, verset 27, où il dit, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, crie à plus haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort ou qu'il se réveillera. Ça représente cette même attitude. Il relève la folie d'appeler ces dieux à témoigner alors qu'ils ne parlent même pas. Ils rigolent sur le fait que ces gens se fatiguent à fabriquer des statues qui en réalité ne sont que des bouts de métal et que ça ne peut pas sauver de leurs maux. Ils ironisent le fait qu'avec le même bout de bois qu'ils ont coupé eux-mêmes. Et ils se chauffent, ils cuisinent, et ils font leur Dieu. Esaïe les met devant les faits. Comme ces idoles n'en peuvent rien, tout leur espoir est en néant, et tous ces gens-là, dans la vanité qu'ils ont créée, ils seront et ils ressembleront finalement à leur propre Dieu, leur propre création. C'est ça le grand danger de l'idolâtrie. Mais, mes amis, ne soyons pas trop orgueilleux non plus en pensant « ouais, c'était leur époque ». L'idolâtrie moderne existe bel et bien. Et là, je ne parle pas des statues, des autres choses. Non, en fait, tout ce qui prend la première amour dans notre vie, ce qui prend cette place qui est réservée à Dieu seul, est en réalité une idole. Et je ne dis pas qu'il faut mépriser ou se moquer comme Esaïe, parce que Esaïe était dans le rôle de prophète, c'est-à-dire il est porte-parole pour Dieu. En fait, il est comme un interprète, il ne dit que ce qu'il entend. Et il n'y a que Dieu qui a le pouvoir et l'autorité pour dire une telle chose, parce qu'il est le seul Dieu vivant. Il est aussi en train de choquer les gens afin qu'ils reviennent à lui, leur présenter la réalité des faits, afin qu'ils se tournent vers lui pour être sauvés. Mais le problème de l'idolâtrie moderne, c'est que les gens de nos jours sont aussi entièrement consacrés à leurs idoles comme les gens à l'époque d'Ésaïe. Et les gens de notre époque sont aussi aveuglés parce que c'est une condition spirituelle. Eux, ils étaient dans leur petit délire, mais nous aussi dans le nôtre. Il nous faut aussi une parole prophétique et compatissante parce que l'idolâtrie moderne cache derrière pas mal de choses. Par exemple, le pouvoir. Ceux qui ne vivent que pour le pouvoir, voilà une idole de notre temps. Ou le plaisir. Ceux qui ne font que vivre pour le plaisir et pour, le, je ne sais pas, le sexe, les vacances, de l'argent, enfin, c'est innombrable. La réussite, l'acceptance, enfin, c'est vraiment large et grand. Ces idoles de notre monde sont toujours incapables, finalement, de nous sauver. En fait, même l'être humain dans son narcissisme, si vous voulez, est aussi une nouvelle forme d'idole dans notre vie. On s'occupe tellement bien de nous-mêmes, de notre image, de ce que nous partageons au monde. Nous sommes notre propre Dieu, fait en notre propre image imaginaire. Alors que Dieu veut quelque chose de beaucoup plus important, plus douce, plus bienfaisant pour nous. Et donc, ayant donc exposé le problème, Dieu les invite à une meilleure existence de ce qu'ils puissent connaître dans l'idolâtrie. Et cette existence n'existe, si vous voulez, que en sa présence. Et c'est là où il les invite. Il dit, verset 21, « Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi, Israël. Je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, lancez des acclamations, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, poussez des clameurs, montagnes éclatées en acclamations, vous aussi forêts, avec tous les arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. » Alors, trois mots, il dit « souvenir, revenir et adorer ». D'abord, souvenir, se souvenez de là où vous êtes venu. Israël devait se rappeler de combien Dieu est son espoir, combien de fois qu'il les a délivrés de leurs ennemis et de son alliance avec eux. C'est lui qui les a façonnés, c'est pour ça qu'il le dit. Hein? C'est en opposition totale avec cette histoire des dieux. Non, c'est lui qui les a façonnés de ses propres mains. Et en réalité, comme Dieu les a façonnés, les a appelés, comme il lui appartient, Dieu ne va jamais les oublier, jamais. Et donc, il faut que eux, à leur tour, s'en souviennent. Et ce n'est pas si loin que pour nous aussi, là où nous sommes, n'est-ce pas? On doit aussi se souvenir de lui. C'est lui qui nous a façonnés dans le ventre de notre mère. C'est lui, justement, qui nous a délivrés des choses terribles, chacun parmi nous. Mais on se rappelle de son alliance. Cette belle alliance conclue en son sang. Il ne nous oublie jamais. Souvenez-vous. Et puis, en se souvenant de lui, on revient. Et voilà notre bel concept. Ce n'est pas juste dans le judaïsme, et c'est un peu plus que simplement repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est tu vas dans une direction, et puis tu tournes et tu vas dans l'autre direction. C'est ça le sens propre. Ce que ça veut dire dans le langage spirituel, c'est que tu fonces vers les ténèbres, tu t'arrêtes, tu tournes vers Christ et tu ouvres ton cœur. C'est lui, donc finalement, que tu découvres, c'est lui qui t'a appelé. Et puis c'est lui qui nous sauve. Pour nous, surtout qui sommes en Christ, l'idée de revenir à lui est si important parce que pour celui qui est errant, on n'a que revenir à lui pour être restauré. Nous sommes appelés à revenir même si on a l'impression de n'avoir rien fait, qui est aussi un problème, puisque nous sommes tous pécheurs. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. c'est aussi l'idée exprimée dans la Sainte Cène. On revient à lui. On médite sur ce qu'il a fait pour nous. On prend ce pain qui est une représentant de son corps, on le mâche. C'est physique. C'est une représentation des réalités célestes. On prend cette coupe qui nous représente le sang de Christ. Il est là, au milieu de nous. On revient à lui. Parce que c'est lui et lui seul qui efface tous nos péchés. Et puis, qu'est-ce qui arrive après? Là, on trouve l'adoration. En fait, on ne peut pas même nous empêcher. Du coup, tellement léger, parce que le fardeau est enlevé, l'adoration devient tout naturel. La voie est proposée. Donc, pour une vie de bénédiction, malgré les difficultés que nous voyons en face, l'Éternel parle de la délivrance, même avant les faits. Ésaïe, qui a écrit 800 ans avant Christ, là dans notre passage, si on adopte, et ce que je fais d'ailleurs, la tradition que c'est bien Ésaïe qui a écrit ça à l'époque avant l'invasion babylonienne. Là, on est vraiment à des centaines d'années avant que toutes ces choses s'accomplissent. Il est le Dieu d'éternité. Et donc, cette connaissance-là doit nous inspirer d'une meilleure confiance dans cette vie. Une meilleure louange aussi qui nous inspire à revenir. Et à revenir vers lui. Quelque part, ce message peut être plus important pour nous de notre époque aujourd'hui, parce que le président est venu à la télé, nous savons que cette guerre va continuer, ok. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Il faut qu'on mène notre vie. Il faut qu'on revienne chaque jour, chaque heure, si vous voulez, à l'Éternel. Parce que, en conclusion, c'est maintenant une invitation à revenir vers lui par les compassions de Christ. Parfois, on peut se sentir seul, alors que Dieu est tout près. Il ne vous abandonne pas, ce n'est qu'un sentiment, mais on a le sentiment, on a l'angoisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à lui. Bien, il y a des moments de défaite. Le péché prend le dessus. On tombe dans le même truc qui... Mais, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on se souvient, on revient de lui, on l'adore, on revient à lui. Ou même dans la joie, dans la prospérité. Parfois, on est bien, mais on est si bien qu'on oublie à quel point on a besoin de lui. Qu'est-ce qu'on fait? On revient à Dieu. Et là où vous êtes aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vous êtes, Dieu vous invite à revenir à lui et à recevoir son amour. Prions. Seigneur, merci pour cette belle invitation de revenir à lui, de te connaître. Et même de te connaître davantage d'une meilleure intimité que nous n'avions pas pensé possible avant. Effectivement, pour cette époque, nous avons besoin de ce message. De se souvenir, et maintenant nous nous en souvenons, Seigneur. Et nous revenons à toi. Transforme notre vie. Prends ce fardeau que nous avons. Pardonne-nous, purifie-nous, Seigneur. Et fais-nous entrer dans ta joie dans cette adoration. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.